Salut à tous et bienvenue sur Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du cinéma. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd et je m'y colle tout seul comme un grand. Et le lourd, c'est un monument du cinéma de science-fiction, intro. Alors vous l'avez peut-être reconnu avec la musique, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc c'est un film qui est sorti en 1968 et pour moi c'est ça a pas vieilli comme film, c'est un monument et ça traite de sujets vraiment d'actualité, c'est-à-dire intelligence artificielle, vie extraterrestre et voyage spatial. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors en fait, comme j'ai dit, c'est un film de 1968, réalisé par Stanley Kubrick, dont le scénario c'est Stanley Kubrick himself et Arthur C. Clarke, un écrivain de science-fiction, ça aussi je vais détailler tout à l'heure. Le scénario il a été fait d'après deux nouvelles d'Arthur C. Clarke, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. On verra après que le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, a été écrit en même temps que le film. Je vous dirai comment. À la photographie, on retrouve Geoffrey Hemsworth, qui a été un des chefs techniciens qui a marqué les grandes heures des studios londoniens de Pinewood. Et il a participé notamment au film de Zardoz avec Sean Connery, Le retour de la Panthère Rose avec Peter Sellers, Un pont trop loin, Les Superman avec Christopher Reeve, La grande attaque du train d'or, aussi, où il y a Sean Connery dedans. À la photographie, on retrouve également Gilbert Taylor, qui est un directeur de la photographie anglais. Il a participé, lui, à Docteur Follamour, le précédent film de Stanley Kubrick, mais aussi à Frenzy, La Malédiction, The Omen, Star Wars épisode 4, Damien la Malédiction 2, Dracula de 79, Flash Gordon, dont tous les deux au niveau de la photographie, c'est-à-dire qui précise les expositions des jeux de lumière, de caméra, etc. Ils ont du bagage. À la musique. Alors les musiques, ça n'a pas été composé spécialement pour le film. Hein. On a du Richard Strauss avec Ainsi parlait Zarathoustra. C'est la musique d'intro de 2001. Et puis on a Johann Strauss fils pour le beau Danube bleu qu'on retrouve après avec le ballet dans l'espace, le ballet des deux astronautes. Et puis à la production, c'est Stanley Kubrick. La société de production, c'est MGM. Un budget de 12 millions de dollars à l'époque, quand même. Et puis on est sur une durée d'à peu près 2h20. Voilà. Faut dire que le film, il a été officiellement annoncé par la MGM en février 65. Donc en fait, à l'origine, le film il devait s'appeler Journey Beyond the Stars et que les autres titres de travail de 2001, ça a été entre autres Universe, Tunnel to the Star ou Planetfall. Bon, c'est que en avril 65, Kubrick il trouve le titre définitif du film. Donc Stanley Kubrick, qui est très connu comme réalisateur. Bon, il nous a quitté en 99, à l'âge de 70 ans. Il a 13 films à son actif. Le premier, c'était en 53, le dernier en 99. Il y a eu Spartacus en 60 avec Kirk Douglas, Docteur Folamour en 64 avec Peter Sellers, Orange Mécanique en 71 avec Malcolm McDowell, Shining en 80 avec Jack Nicholson, Full Metal Jacket en 87 avec Matthew Modine, et Eyes Wide Shut en 99, son dernier film avec Tom Cruise. Bon, certainement qu'il y a certains de ces films-là qu'on aura l'occasion de voir dans un épisode d'Archéociné. Et donc, 2001, c'est son 8e film. Allez, petit extrait musical avec Le Beau Danube Bleu. On a comme acteur, alors pas très connu, Kerr Douléa, hein, qui joue le rôle de David Bowman. Alors lui, il avait fait précédemment quelques westerns. Buddy Lake a disparu, Daddy Cool, Black Christmas ou Le Cercle Infernal. Et on le retrouve également dans la suite de 2001, c'est-à-dire 2010. On a aussi comme acteur Gary Lockwood, hein, qui joue le rôle du docteur Frank Poole. Alors lui, ben en fait, on l'a vu que dans des séries. Et puis pour aller de la plus récente à la plus ancienne, on le retrouve dans Pacific Homicide, Arabesque, MacGyver, Hooker, Pour l'amour du risque, Drôle de dame, Starsky et Hutch, Super Jamie, L'homme qui valait 3 milliards, Mission Impossible, la série de 66. Ouais, donc tout ça, ça parle aux anciens. On a William Sylvester, qui joue le rôle du docteur Ewood R. Floyd. Et on a la voix, en VO, de Douglas Rain, qui fait la voix de Hal 9000, c'est-à-dire Carl 500, en VF. Interprété par David Chaumette, qui est un acteur doubleur. Notamment, il fait la voix de Dark Vador dans Star Wars et la voix de Khan dans Star Trek 2. À noter que Kerr Douléa est toujours vivant, il a 83 ans, et Gary Lockwood en a 82. Au niveau du tournage, c'était un tournage vraiment très très long et gigantesque, énorme, hein. Stanley Kubrick vient de terminer son film Docteur Folamour, qui était un succès, hein, c'est une comédie débridée avec Peter Sellers, et c'est une habitude chez Kubrick, il aime bien changer complètement de genre, donc on passe d'une comédie débridée à un film de pure science-fiction avec 2001. Qui est à l'adaptation de La Sentinelle, une nouvelle d'Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke nous a quittés en 2008 à l'âge de 90 ans. C'est un écrivain de science-fiction, scientifique, futurologue. Le scénario qui a été écrit par Kubrick et Arthur C. Clarke donc est partiellement inspiré de cette nouvelle, La Sentinelle. Et Clark, il rédige parallèlement au tournage son roman. Donc d'un côté, on a Arthur C. Clarke qui fait son roman, de l'autre, Kubrick qui fait le scénario et le script de 2001. Donc tous les deux, ils vont se donner des idées, etc., et pratiquement écrire en commun. Et l'Odyssée de l'espace sera publié peu après la sortie du long métrage, parce que Kubrick voulait que les gens voient d'abord le film avant de lire le livre. Et d'ailleurs, à ce propos, le livre nous donne énormément de détails supplémentaires pour la compréhension du film. Et d'ailleurs, pour comprendre le film, si je vous explique, il va falloir que je spoil. Alors forcément, toute la suite, je vais spoiler. Donc si vous voulez arrêter d'écouter regarder le film et revenir après sur cet épisode de podcast, vous pouvez. Donc Kubrick, lui, il avait réfléchi déjà à l'idée de concevoir Docteur Folamour comme un espèce de documentaire réalisé par des extraterrestres. Bon, ça s'est pas fait, il est resté sur une comédie burlesque, mais il avait quand même cette petite idée de toucher du doigt la science-fiction qui lui trottait dans la tête. Et il a voulu essayer un genre nouveau, la science-fiction. Et comme il avait lu la nouvelle d'Arthur C. Clarke, hein, La Sentinelle, eh ben il a décidé de rencontrer son auteur en 64 et afin d'établir ensemble une collaboration. Donc c'était énorme pour le film, hein, puisque Kubrick il a réuni pas moins de 25 spécialistes des effets spéciaux, dont Harry Lange, hein, chef décorateur, directeur artistique allemand, conseiller de la NASA. Hein, il a bossé sur les films de 2001, Moonraker, Star Wars épisode 5, Dark Crystal, Star Wars épisode 6, Les Monty Python. Bon, c'est vrai que là on sort un peu de la science-fiction. Mais bon. Et on a aussi Frédéric Ordway, qui est un Anglais. Il est aussi issu de l'industrie spatiale. Et on a Brian Johnson, qui fut plus tard oscarisé, lui. Il est non crédité au générique, mais bon. On a pas moins de 35 décorateurs sur le plateau, 70 autres techniciens qui furent employés pour le tournage. Rien que la salle de commande du Discovery nécessite un fort investissement financier pour construire le décor cylindrique, rotatif, qui pèse pas moins de 30 tonnes. Il a coûté à lui seul 750 000 $ quand même. Et le tournage commence le 29 décembre 65. Donc 65, le film sort en 68 quand même. Par la scène, le monolithe qui est dans le cratère de Tycho. Rien que la post-prod à elle seule hein, nécessite 2 ans de travail supplémentaire. Alors que le budget initialement prévu était de $6 millions, il dépasse $10 millions. Ce qui explique entre autres les plans des effets spéciaux. Il y en a pas moins de 205 dans le film. Et Kubrick, c'est lui qui a mis en œuvre de nombreuses techniques d'avant-garde en matière d'effets spéciaux. Et il fut à l'origine du motion control. Bon, après, petite parenthèse au niveau de Kubrick, comme il a employé des conseillers spatiaux qui travaillait à la NASA. Après, il y a une théorie du complot qui dit que, les clichés qui ont été pris sur la Lune, des missions Apollo, les clichés photos et films, hein, ça a été réalisé, en fait, en studio. Chose, moi, que je ne crois pas. Ils y ont vraiment été, pour moi. Donc, voilà. Théorie du complot. Donc maintenant, on va revenir un peu plus en détail sur le film. Le film, il est divisé en 4 actes distincts. Hein. Le premier, c'est avec les Australopithèques qui découvrent l'usage de l'outil après avoir touché le monolithe. Et ça se déroule donc à l'aube de l'humanité. On a le deuxième volet où le docteur Harold Earl Floyd, en 2001, trouve ce même monolithe sur la Lune, et quand il le touche, ça active une balise qui déclenche l'émission du monolithe qui se trouve aux abords de Jupiter. On a une troisième partie où c'est le docteur David Bowman et Frank Poole, en tant qu'astronautes, qui entreprennent un voyage vers Jupiter à bord du vaisseau Discovery One, géré par l'intelligence artificielle HAL 9000. Et enfin, le dernier acte, qui suit le périple de l'astronaute David Bowman au-delà de l'infini. Bon, ça, je vais vous expliquer tout ça. Alors, on a aussi le nom de HAL 9000, hein, c'est l'ordinateur qui se rebelle et qui prend le contrôle du vaisseau spatial, et la légende dit que ça serait une référence directe au constructeur IBM. Pourquoi ? Parce que ces 3 lettres précède l'alphabet, donc H-A-L, ça précède les lettres IBM. Mais Arthur C. Clarke réfute cette idée. Et il dit que ça fait partie d'un pur hasard et que HAL, c'est l'acronyme de Heuristically Programmed Algorithmic. Donc, en français, littéralement, ordinateur algorithmique programmé heuristiquement. Et dans la version française de 2001, bah, le nom de HAL est adapté en Karl. Encore un truc des années 70-80 où on aimait bien changer les noms. Soit cerveau analytique de recherche et de liaison, qui est une traduction approximative. Au niveau des récompenses, eh bien, on a des Oscars, Oscar du cinéma en 69 avec les meilleurs effets spéciaux. On a le British Academy Film Award en 69 avec le meilleur direction artistique et meilleure bande originale. On a le prix Hugo en 69 du meilleur film dramatique. Et plusieurs autres distinctions un peu moins prestigieuses. Alors, faut se remettre dans le contexte. On est en 1968, hein, donc en fait, en plein dans les années de la conquête spatiale, hein, y a un optimisme sans faille qui entoure la conquête de l'espace, et 2001 sort un an avant la première mission spatiale à avoir conduit un homme sur la Lune. Donc, les médias, enfin, de l'époque, faut se remettre dans le contexte, hein, dans les médias, n'importe quelle revue, journal, etc., c'était peuplé d'engins spatiaux soviétiques nord-américains, on avait des vues d'artistes imaginant des futures deux bases lunaires, des photos de la Lune prises à l'époque par les, déjà, par les atterrisseurs surveilleurs et rangers, hein, on a, en 61, il y a Yuri Gagarin qui devient le premier homme dans l'espace en bouclant une orbite complète. On a en 63 Gordon Cooper qui passe les premiers 24 heures dans l'espace. En 64, le premier équipage de 3 astronautes à bord d'un vaisseau soviétique Vostok 1. On a en 65 la première sortie extravéhiculaire par le colonel Alexei Leonov en mars. Puis le premier rendez-vous spatial le 15 décembre entre les astronautes nord-américains Frank Borman et Thomas Stafford. À bord des capsules Gemini 6 et Gemini 7. Donc on est en plein dedans. Donc en fait, 2001, quand c'est sorti, c'est vrai que ça faisait un peu fantasmer, quoi. Alors après, au niveau des concepts purement de science-fiction, hein, la grande roue orbitale de 2001 et sa gravité artificielle provoquée par la force centrifuge, pardon. Ça, c'est un concept envisagé par Wernher von Braun dans les années 50. Hein, puis on peut faire après... Il y a eu, on est en plein dans la SF, hein, l'apparition de la SF, hein, on a dans ces mêmes années-là, on a la sphère de Dyson, qui est apparue en 60, par le physicien mathématicien Freeman Dyson. On a la sphère de Bernal mais ça date de plus vieux, en 1929, par John Desmond Bernal. On a le cylindre O'Neill. Tout ça, c'est des programmes d'habitation spatiaux, etc. Le tor de Stanford. Allez, on s'égoutte un petit extrait du film, le moment où le docteur Bowman et puis HAL 9000 commencent chacun à monter en pression.
Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure en début d'épisode, eh ben, on a plusieurs thèmes qui sont vraiment toujours d'actualité. On a à mon sens, on retrouve la théorie des anciens astronautes avec le monolithe qui apporte le savoir et la conscience aux hommes préhistoriques. Le monolithe, ça, on le sait dans le roman, c'est pas trop dit dans le film. En fait, c'est un super ordinateur d'une intelligence ultime. Donc, quand les premiers hommes le touchent, l'ordinateur, le monolithe, leur fait prendre conscience de leur existence. Et puis, à développer leur intelligence. On a aussi comme thème toujours le voyage spatial, hein, avec le voyage Terre-Jupiter. On retrouve l'intelligence artificielle avec l'ordinateur AL9000. On retrouve le voyage interdimensionnel par les trous de ver. Enfin, les trous de ver. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, la vie extraterrestre, puisque finalement, ça c'est pas dit dans le film aussi, il faut lire le bouquin, mais en fait, les monolithes ont été construits par des êtres constitués d'énergie pure qui ont appris à se passer dans leur enveloppe corporelle. Voilà. Et il est vrai que dans le film 2010, ce film apporte des réponses au premier volet, donc 2001. Bon, à savoir aussi, à noter que Arthur C. Clarke a écrit 4 romans. On retrouve donc 2001, l'Odyssée de l'espace, 2010, Odyssée 2, 2061, Odyssée 3, 3001, l'Odyssée finale, que j'ai lu tous les 4. Alors, au niveau de la musique du film, Kubrick avait aimé sa collaboration avec Alec North, avec laquelle il avait travaillé sur Spartacus. Mais le fameux thème de Richard Strauss, extrait d'Ainsi parlait Zarathoustra, fut diffusé sur le plateau de tournage, et ça a beaucoup plu à Kubrick. Et il s'est rendu compte qu'un morceau musical d'une telle ampleur, ça ne pouvait surpasser rien d'autre. Donc il décida d'utiliser cet extrait sonore-là. Et aussi, chose que j'apprécie dans ce film de science-fiction, c'est que il est réaliste au point que ça reproduit la physique dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun son, car dans l'espace, il n'y a pas d'air, et qu'il faut de l'air pour transmettre un son. Et donc là, toutes les scènes qui sont filmées dans l'espace, c'est le silence total. Alors que dans d'autres films, Star Wars, etc., on entend les explosions, les tirs de laser et tout ça. Ça, dans la réalité, ça se fera jamais. Alors maintenant, pour finir vraiment avec les explications du film, on a au début, justement, bon, comme je disais, les hommes préhistoriques qui touchent le monolithe et qui leur apporte savoir et conscience. Après, on retrouve en 2001 ce même monolithe sur la Lune, qui, quand ils sont découverts par les astronautes, se déclenche une balise. En fait, ce monolithe-là ne servait qu'à ça. Il ne servait qu'à à alerter les extraterrestres que l'homme avait les compétences et la technique pour arriver sur la Lune. À ce moment-là, un autre monolithe, mais énorme celui-là, qui est en orbite autour de Jupiter, émet un signal qui est détecté par les radiotélescopes de la Terre, et c'est là qu'on envoie donc une mission avec deux astronautes, David Bowman et puis Frank Poole. Alors c'est vrai qu'à bord de ce vaisseau-là, Discovery One, qui est régi entièrement par l'intelligence artificielle AL9000, qui, on le découvre dans le film, à un moment donné, pète un plomb. Mais, là, spoil aussi, hein. Elle pète un plomb, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle seule, est au courant du signal extraterrestre et de la présence des extraterrestres. Les deux astronautes à bord du vaisseau ne le savent pas. Donc, comme l'intelligence artificielle pense que les deux astronautes vont mettre en danger la mission, l'IA fait tout pour préserver le but de la mission.
Arrêtez, Dave. J'ai peur.
Donc après, pour interpréter la fin du film que beaucoup ne comprennent pas, et c'est vrai qu'elle est difficile à comprendre parce que je pense, à mon sens, que les effets spéciaux de l'époque, bien qu'il n'y a rien à dire, hein, ils sont toujours au top et même d'actualité toujours bien faits, mais ça n'a pas été très bien retranscrit par rapport à ce dont il est écrit dans le livre. En fait, le monolithe qui est près du Jupiter, c'est une porte spatio-temporelle. Et en fait, quand Bowman s'en approche, il se retrouve propulsé dans un champ de force qui l'entraîne dans une dimension spatio-temporelle située dans un autre lieu de la galaxie. Et d'un seul coup, on le voit là, dans une pièce toute blanche, et puis on le voit vieux, on le voit qui se voit, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Bon. En fait, il s'avère que il a atterri dans une pièce au décor Louis XVI, et il s'avère, alors ça c'est clairement dit dans le bouquin, que il est parqué clairement dans l'équivalent d'un zoo humain pour y être étudié. Et sa vie défile dans cette pièce, et pourtant ses longues années lui paraissent ne durer qu'un instant. Et c'est pour ça qu'il se voit vieillir. Et à sa mort, un monolithe apparaît, encore lui, et quand il veut le toucher, il n'arrive pas à le toucher. Mais quand il meurt, le monolithe fusionne avec avec Bowman, et il renaît sous une forme supérieure avec un corps d'humain et les pouvoirs des extraterrestres aux alentours de la Terre. Et alors on peut le voir un peu comme un ange ou un surhomme, et dans le bouquin il est dit que il est invincible, omniscient, et même quand dans le film ça s'arrête là, mais dans le bouquin ça continue. Quand sur Terre il est détecté par les radars, on envoie sur lui, donc l'humanité, les Terriens prennent peur, ils envoient sur lui toute une armada de missiles nucléaires que lui, il fait exploser en un claquement de doigts. Bon, ça, c'est une partie qu'on voit pas. Et toute la partie un peu psychédélique où on voit dans le film des couleurs bizarres, des paysages un peu bizarres et tout, c'est l'image qu'a voulu donner Kubrick à la traversée dans cette porte spatio-temporelle. Voilà donc l'explication du final de 2001. Voilà, écoutez. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur le blog archeociné.ddns.net, également sur Twitter archeociné, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez écrire à archeociné@gmail.com, et puis vous nous retrouvez aussi sur Podcast Addict et autres plateformes de téléchargement de podcasts. Merci de m'avoir suivi encore une fois, et à bientôt.